Bonjour Alain.
Une balade dépendue aujourd'hui ?
Eh oui, nous dirions, Villon comme tout le monde, je vous cite Louis Aragon Alain, si Villon ne s'était prémuni contre notre ignorance en faisant rimer son nom avec couillon.
Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
François Villon, 1431, 1463, point d'interrogation.
Me suis-je dit a commis divers délits. Vol de la borne dite du paix au diable. Menace de mort envers l'honorable demoiselle de Bruyère. Ivresse publique. Conduite scandaleuse. Coups et blessures.
Dont je souffre beaucoup.
André Suarez disait, il est savant, presque d'église, il aurait pu être docteur, ou grand juge, ou qui sait quoi, mais il fait le ribaud et l'espiègle. Les années passant, les incriminations pleuvent dru, du canular à la rixe, du crochetage à l'assassinat. L'idée de peiner toute sa vie dans l'ennui lui est sans doute insupportable, et alors il préfère descendre sa pente plutôt que de la remonter. C'est ainsi qu'à 30 ans, il se retrouve seul, condamné à errer ou à se dissimuler. Mais de moi, pauvre, je veux parler. Il a sa façon d'ailleurs, bien à lui. Son œuvre est un long testament délié où il s'imagine un lignage et distribue des biens sans réalité, tout en se représentant, écrivant, souffrant, bientôt mourant, mais toujours insolent. Dès son vivant, ses poèmes circulent, jetés au vent des routes ou aux tables des tavernes, mais ils sont aussi connus dans les petites cours choisies qu'il lui est arrivé de fréquenter à Blois, par exemple, chez le duc d'Orléans. Dès 1489, Villon est imprimé. Avec l'édition de Clément Marot en 1533, l'autorité vient à ses textes avant que Rabelais ne le tire dans le sens du grotesque. Le 19e marquera un nouveau départ. Son œuvre est constamment réinventée, réinterprétée, récemment Sappho ou La souris déglinguée. Souvent, on décrète sa résurrection sous forme de Verlaine, sous forme de Genet. André Suarez, encore lui, disait « C'est le poète ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Sophie Cassagne-Brouquet, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Albin Michel « Deux mois pauvres, je veux parler vie et mort » de François Villon. Vous enseignez à Toulouse après avoir erré dans plusieurs universités de régions différentes. Vous avez travaillé sur les artistes du Moyen-Âge et leurs mécènes, sur les écoliers, les violences étudiantes, sur la ville, sur les femmes, sur combien d'autres sujets. On va commencer par l'enfant de la ville, parce que s'il est un Parisien, c'est Villon. Et il commence, 1431, rive droite. Le père vient du Bourbonnais, mais il a rejoint Paris, on ne sait rien de lui. La mère vient sans doute de l'Anjou. Et elle est encore là, d'ailleurs, dans les dernières années de Villon. Forte, ancienne, mais toujours humble chrétienne. Et c'est rive droite, à Paris.
Oui, Paris, à l'époque, Paris, c'est la rive droite. La rive gauche, on en reparlera, mais ça n'est pas Paris. Le cœur de Paris tourne autour de la Halle. La même, au même emplacement que la halle actuelle, et autour, dans un passage qui va en gros du Louvre à la Bastide, on l'appelle comme ça à l'époque, Saint-Antoine, c'est-à-dire la Bastille, ce que nous appelons la Bastille. Et François, il habite à côté de la rue Saint-Antoine, près de la Bastille.
Pas facile hein, ces premières années pour Paris, un moment occupé par les Anglais. 1435, il neige pendant 40 jours, des tas de neige, hauts comme des meules de foin. Dans les rues.
Nous disent les chroniqueurs avec l'exagération médiévale. Mais c'est vrai que depuis le XIVe siècle, on connaît un changement climatique, mais ce qui n'est pas du tout le nôtre, c'est un changement vers un froid plus intense et beaucoup d'humidité qui provoque famine. On se plaint aussi de la cherté des grains à manger. Et Paris est une ville occupée donc jusqu'à ce que François ait 5 ans. Et c'est une ville désertée puisque le roi est parti sur la vallée de la Loire, Charles VII, et les Parisiens sont partis en grande partie aussi, et surtout, ça permet à des nouveaux venus, comme le père de François et sa mère, de venir s'implanter dans Paris.
Au marché, on parle un peu toutes les langues de toutes les régions, toutes sortes de caquetières sont là.
Brette, Suisse, n'y savent guère.
Gasconne, nos si toulousaines, de petits ponts, de harangères, les conclurons et les lorraines, anglaises et calaisiennes. Ai-je beaucoup de lieux compris, picarde de Valenciennes. Il est bon bec, que de Paris.
Même des Toulousaines du côté des Halles, Sophie Cassagne-Brouquet.
Oui.
Il adore entendre l'entremêlement des langues.
Oui, dès son enfance, visiblement, parce que ce dont il parle dans ce poème, sur les lingères et les marchandes de la Halle, il est très enfant quand il entend ça, et visiblement, ça le fascine, et toute sa vie, il sera fasciné par les différents langages. À un certain moment, il évoque la Bretagne, le Poitou, et bien sûr l'argot. L'argot du milieu.
Et ça, on va venir dans le milieu, parce que pour l'instant, c'est un enfant humble. Il va passer chez celui qu'il appelle son plus que père, maître Guillaume de Villon, dont il prendra le nom, qui est un chanoine. Alors maintenant, il a franchi le pont et il est rive gauche, un chanoine de Saint-Benoît. Le Bétourné, c'est au coin de la rue Saint-Jacques d'aujourd'hui et de la rue des Écoles.
Ah hein, oui, c'est en plein quartier latin. Hein. La rive gauche, à cette époque-là, c'est un quartier encore très agricole. Il y a des vignes, il y a des prés, le fameux pré Saint-Germain, où les étudiants vont s'ébattre. Là où se trouve aujourd'hui la Mazarine.
Hein, la bibliothèque Mazarine. Le pré Auclair, où on vit de l'Écurelle.
Ouais. Et plus on monte sur la montagne Sainte-Geneviève, là où se trouve aujourd'hui le Panthéon, on a une infinité de couvents, monastères. C'est vraiment le quartier des clercs. C'est un quartier finalement très masculin et jeune.
Couvent, monastère, il y a aussi les chapitres. Le chapitre de Saint-Benoît qui est un petit chapitre, le chapitre de Notre-Dame qui est un grand chapitre, qui se combattent. Il est au milieu de débats violents d'ecclésiastiques.
Oui, il va adopter les querelles de son presque père. L'église de Saint-Benoît, le Bétourné, parce qu'elle était mal axée, si vous voulez. Elle n'était pas axée vers Jérusalem. Est une petite église, mais très ancienne, qui date de l'époque mérovingienne, et qui a du mal à accepter la tutelle des chanoines de Notre-Dame. Les chanoines de Notre-Dame viennent chaque année prélever leur impôt sur l'église. Et donc, évidemment, François, élevé par Guillaume de Villon, dans le cloître de Saint-Benoît de le Bétourné, adopte les querelles contre les chanoines de Notre-Dame de Paris et aussi contre ces nouveaux venus que sont les ordres mendiants qui grappillent les bénéfices par rapport aux églises traditionnelles.
C'est un brillant écolier, même s'il n'abuse pas du travail. Bachelier à 18 ans, 1449. Licencié à 21 ans, 1452. Mais comme disait André Suarez, que votre éditrice et vous citez souvent, il est savant, il est presque d'église, il aurait pu être docteur ou grand juge, mais il fait le ribaud et l'espiègle.
Où sont les gracieux galants que je suivais autant jadis, si bien chantant, si bien parlant, si plaisant fait et on dit, les aucuns sont morts et raidis, les n'est-il plus de maintenant, repos ils étaient en paradis. Et Dieu sauve le remenant.
Salut, Magister Franciscus.
Salut, gracieux galant.
Ah.
Salut, mire les fleurs, turlupin, hamache et marlou.
Salut, grand tavernier.
Au grand taulier, salut.
Salut, cato, catin, gourge et gourgandine.
Baisez-nous, baisez-moi.
Eh, nez, un paix, tenez, un gros à vous partager.
Eh, on n'a rien entendu.
Non, non. Tu mens.
Oh, ça va mal. Monseigneur n'est point porté ce soir à la faribole.
À la bagnaude.
À la bagatelle.
Oh, bien sûr, belle ribaud des filles folles. Je crève et je ruisselle ce qu'il me faut par bleu, grand feu en l'autre, et puis en gargouillette fraîche rasade.
Une bûche.
Un pichet.
De la hie, de l'onis.
Du jurel.
Rien que du morillon tiré à la futaille.
Du gros rouge qui tâche pour faire François Villon.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Alors là, on a descendu un seuil, on est dans une taverne. Est-ce que c'est la pomme de pin? Est-ce que c'est le grand Godet? On a entendu Félix Leclerc et puis Michel Vitold dans le rôle de François Villon dans une réalisation de la RTF de 1951. La pomme de pin, le grand godet, vous nous décrivez ça le tout grand en godet, détail.
Le grand godet, c'est rive droite.
Oui, je sais, mais la vous dites qu'il a pu fréquenter le grand godet.
Oh, il a fait les deux, oui. Et d'autres encore. Le quartier latin a une population très majoritairement de jeunes hommes entre... On entre très tôt à l'université à l'époque, hein, 14 et 30 ans. Et vous comprenez bien qu'il y a des tavernes, comme aujourd'hui, il y a des cafés près des bars, des lycées et des universités. On s'y retrouve, on y refait le monde, on y joue aux cartes, on y joue aux dés, avec de l'argent, et ça, l'Église le condamne. Et François, il va au cours, mais il a une circonstance atténuante, je dois dire, qu'au moment où il termine sa licence, l'université est en grève pendant un an et demi. Vous imaginez aujourd'hui un an et demi.
Quand on connaît le Mirail à Toulouse.
On n'est jamais arrivé jusqu'à un an et demi.
Parce que le Mirail à Toulouse et ses cafés, ça ressemble plus au quartier latin du Moyen-Âge que le quartier latin de 2016.
Et donc, que faire? Il est logé, nourri par maître Guillaume de Villon. Et évidemment, il va à la taverne. Et il s'amuse.
Va venir quand même, après le temps des canulars. Bon, prenons un exemple de canular.
Alors, parmi les canulars que les étudiants font à cette époque-là, ces tavernes qui s'appellent le Grand Godet ou la Pomme de Pin, c'est le nom de leur enseigne en métal. Et donc, les étudiants s'amusaient à voler les enseignes. Et par exemple, il y avait à Paris une enseigne des trois fils Aymon. Et... ils avaient pris donc des enseignes des trois pucelles et les avaient fait se marier entre elles dans une procession. Un peu.
Mais les rixes, c'est plus grave. Il y a des violences sérieuses. En 1455, il fait quand même un mauvais sort à un prêtre, Philippe de Sermoise. Et puis, il s'éloigne, c'est plus prudent. Après avoir participé au crochetage du collège de Navarre, collège important de la montagne Sainte-Geneviève. Et alors que l'enquête se poursuit, sans qu'il le sache trop et qu'il risque d'être démasqué, il rédige ce qui est peut-être sa première grande œuvre.
L'an 456, je, François Villon, écolier, considérant de sens rassis, le frein aux dents, franc au collier, qu'on doit ses œuvres conseiller comme Végès le raconte, sage romain grand conseiller, ou autrement on se mécompte. En ce temps que j'ai dit devant, sur la Noël morte saison, que les loups se vivent devant et qu'on se tient en sa maison pour le frimat près du tison, me vint un vouloir de briser la très amoureuse prison qui saoulait mon cœur débrisé. Je le fis en telle façon, voyant celle devant mes yeux consentant à ma défaçon, sans ce que j'a lui en fût mieux, dont je me deuille et plains aux cieux, en requérant d'elle vengeance à tous les dieux vénérieux et du grief d'amour allégeance. Et si j'ai pris en ma faveur ces doux regards et beaux semblants, de traits décevantes saveurs me transperçant jusqu'aux flancs, bien ils ont vers moi les pieds blancs et me faillent au grand besoin. Planter me faut autre qu'on plant et frapper en un autre coin.
C'est en 1456 le lait, dit ici par Serge Reggiani, rédigé à Angers, loin des doux regards et des beaux semblants de traits décevantes saveurs de tant de femmes.
Oui, il s'est enfui à Angers après la découverte donc du cambriolage du collège de Navarre, qui était, on pourrait dire, quand même le casse du siècle. Hein. C'est une somme énorme qu'ils ont volée. Et il prétend qu'il a été délaissé par une certaine Catherine de Vaucelles. L'ennui, c'est qu'on n'a jamais réussi à retrouver qui pouvait être cette personne. Et on se demande si c'est carrément pas un jeu de mots aussi, hein, puisqu'on pourrait le traduire en Vaucelles, aller chercher les groseilles, aller aux fraises, en fait. Donc, c'est assez complexe.
C'est toujours comme ça, c'est toujours un jeu sur les noms, les signatures.
Ouais. Toujours un double sens, voire même parfois un triple sens sur certains poèmes d'argot. Et donc, c'est ça qui est... Bon, c'est très intéressant, évidemment, mais on ne peut pas avancer des certitudes sur la vie de Villon
Et un jeu de miroir, parce qu'on le voit dans le lait se mettre en scène lui-même, dictant, écrivant, jusqu'à ce qu'à un moment l'encre, par tant de frimas, gèle dans l'encrier, et il ne peut plus écrire, mais il continue à se montrer écrivain.
Oui. Oui, là, le lait, c'est vraiment un jeu presque encore un jeu d'étudiant, un poème d'étudiant. On peut imaginer que d'ailleurs qu'il en a composé certaines parties dans les tavernes en les faisant lire à ses amis. Parce que il y a toute une série de donations complètement burlesques et très outrageantes, hein, pour certains chanoines, justement, de Notre-Dame de Paris, des juges du Parlement ou du Châtelet. Et vraiment, il y a aussi des... C'est difficile à lire aujourd'hui, dans le sens où il donne des choses à des amis. Hein, donc, en faisant sur des jeux de mots, sur leur nom, sur leur travail. Et il écrit vraiment pour un public choisi, un public déjà conquis.
Un autre public choisi, il va le rencontrer dans les cours, notamment au bord de la Loire. Oui, parce que l'enquête sur le Collège de Navarre avançant, ses propos sur les membres du Parlement à Paris ne favorisant pas son avancement, il ne peut plus être ecclésiastique. Vous dites qu'il commence à avoir conscience que sa vie est ratée. Il va se retrouver dans une situation d'errant et confier sa personne à Charles d'Orléans. Alors Charles d'Orléans, c'est pas n'importe qui, c'est pas seulement un mécène. Vous avez beaucoup travaillé sur le mécénat. Ce fit Cassagne Brouquesset lui-même, quelqu'un qui peut être porté à comprendre Villon parce qu'il a eu sa part de malheur et de solitude.
Prisonnier à 17 ans à Azincourt, captif pendant 25 ans en Angleterre, il a eu le temps de penser, évidemment, mais surtout de composer. Et il est considéré à l'époque comme le plus grand poète de son temps. Bon, c'est assez exceptionnel quand même, cette rencontre entre ces deux hommes. Le vieillard, pour le Moyen-Âge, hein, de plus de 60 ans, et le jeune écolier qui a une petite trentaine. Et les deux vont se retrouver, vont se reconnaître, mais vont finir par aussi se distinguer, parce que Villon est vraiment trop loin des valeurs chevaleresques que porte le vieux duc.
Alors, reconstitution de cette rencontre, c'est dans un film de Sergiu Nicolaescu, et c'est Florent Pagny, on l'entend très peu, hein, qui est dans le rôle de François Villon.
Reste avec moi quelque temps. Tu auras le gîte, le couvert, quelque argent, un pourpoint, deux chemises, et je ne te demande que d'être toi-même.
Vous irez de surprise en surprise, monseigneur, et je ne vous garantis pas qu'elle soit bonne.
Surprends-moi, c'est ça. C'est tout ce que je souhaite.
J'ai toujours vécu dans la rue au gré du vent. Qui fut souvent mauvais, à vrai dire.
Je t'offre une pause, accepte-la. Ici, il n'y a pas de chaîne, ni de verrou. La cage sera toujours ouverte, tu partiras quand tu voudras.
Je suis si fatigué.
Il va faire deux séjours à Blois, entrecoupé d'ailleurs par un séjour en prison, une raison de fatigue. Vous parliez de la différence entre les deux styles. Il est capable de parodier le style courtois.
Ah oui, tout à fait. Il a écrit même une ballade en vieux François, au François, il faudrait dire, où il se moque des ballades chevaleresques et de l'amour courtois. Là où les choses sont intéressantes, c'est à l'occasion du concours, hein, de la joute poétique que Charles organise à Blois, qu'on appelle le concours de Blois, où il donne comme sujet, comme premier vers, la ballade des contre-vérités. Et le premier vers qui est donné à tous les candidats, c'est « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». Alors on sait que le médecin du duc a participé et d'autres courtisans. Et c'est finalement François qui remporte. Et c'est comme ça qu'on connaît ce poème, parce que le duc notait dans un petit carnet, qu'il appelait son carnet chéri, ses poèmes, mais aussi les poèmes qu'il aimait le plus. Et là où c'est un exercice de style pour les autres, pour François, ça devient une véritable introspection, hein, où ses contre-vérités sont ses propres contradictions qui sont mises en avant. D'un point de vue formel, il utilise le système de la ballade, très classique, mais ce qu'il y introduit à l'intérieur révolutionne complètement la ballade.
C'est qu'au-delà de la sincérité, il y a chez lui de la perversité, que la perversité est plus féconde que la mélancolie du duc d'Orléans.
Oui, mais plus moderne, je dirais, d'un certain sens. Et ce qui est très choquant, c'est que dans l'envoi au prince, là où on doit se faire le plus courtois possible, il lui demande de l'argent, il lui demande ses gages.
Alors ce qui est moderne aussi, c'est la fréquentation qu'il fait outre les cours princières, parce qu'il est allé aussi chez le duc de Bourbon, à Moulins, c'est la fréquentation des coquillards, des gens qui sont là, sur les routes, dans les tavernes, qu'il rencontre, alors qui peut-être l'entraîne dans telle ou telle de leurs aventures, mais qui surtout le fascine par leur langue, toujours le thème de l'entremêlement des langues.
Les coquillards, c'est une bande, plus qu'une bande, hein, puisqu'ils ont par compté peut-être plus de 500, presque 1000 personnes, depuis Paris, Dijon, la vallée de la Loire, plus tard ils iront dans le Languedoc, et ils ont un argot. Ils ont un argot, un jargon. Je ne pense pas que François ait vraiment été un coquillard, parce qu'il n'en avait pas les capacités. Dans la bande des coquillards, il y avait vraiment des spécialistes, des crocheteurs de coffres, des voleurs, des faux mendiants, des faux monnayeurs. Mais il les a touchés au quartier latin et il est fasciné par eux.
Et il les retrouve sur les routes après.
Et ce qui le fascine, c'est justement ce langage nouveau qui mélange, alors qui est en train de se former et qui deviendra l'argot, qui mélange des textes, des mots du sud de la France, de Bretagne, de Paris et d'italien même, de ce qu'on appelle à l'époque les Égyptiens, que nous appelons les Gitans. Et donc il est fasciné par ce langage et il s'amuse à écrire 8 ballades en jargon qu'on va retrouver au XIXe siècle. Et au début, on ne pensera pas que c'est lui. Hein. Or, évidemment, c'est absolument lui, puisqu'il parle de ses compagnons d'aventure, ceux qui ont fini sur le Jubé, qui étaient de vrais coquillards, eux, comme Régnier de Montigny.
1460, après Blois, Moulins et Roussillon, où il était chez les frères du duc de Bourbon, un emprisonnement va suivre, 1461, à Main-sur-Loire, enfermé sur l'ordre de l'évêque d'Orléans, Thibaut d'Assigny. Villon écrira ceci dans le testament.
En l'an 30e de mon âge, que toutes mes hontes j'ai bu, ni du tout folle ni du tout sage, nonobstant maintes peines eues, lesquelles toutes j'ai reçues sous la main Thibaut d'Assigny. S'évêque il est, signant les rues. Qu'il soit le mien, je le renie. Mon seigneur n'est ni mon évêque, sous lui ne tient s'il n'est en friche, foi ne lui doit nommage avec. Je ne suis son serf ni sa biche. Puis, main d'une petite miche et de froid d'eau tout un été, large ou étroit, moult me fut chiche, tel lui soit Dieu qu'il m'a été.
Tout un été au pain et à l'eau à Main-sur-Loire, une malédiction contre l'évêque Thibaut d'Assigny. Je ne sais pas si on a bien fait attention à cette phrase sur laquelle vous pointez, vous, votre réflexion dans votre livre sur François Villon. François Cassagne-Brouquet, je ne suis son serf ni sa biche. C'est... Alors vous qui faites dans l'histoire genrée, vous en tirez toutes sortes d'interrogations.
C'est très pervers en fait. Il accuse l'évêque du crime, le ultime, le pire des crimes, pour l'époque, la sodomie, c'est-à-dire l'homosexualité. Cet évêque si rigoureux qui a réformé son clergé et les mœurs de son clergé, par plusieurs pointes comme ça passées discrètement, il l'accuse de sodomie, c'est-à-dire de la peine de mort du bûcher.
Il a toujours de la chance avec les rois. Louis XI, qui vient d'accéder au trône, va le libérer lors d'un passage à Main-sur-Loire. Et néanmoins, on le retrouve en 1462 à Paris ou bien aux environs de Paris. Et là encore, une affaire malheureuse.
Oui, on ne sait pas trop, hein, mais il est... Il est sans arrêt arrêté. Je pense que là, il n'a vraiment plus d'argent. Il vole. Hein, il vole. Peut-être parfois même, il vole comme pour main, il a dû voler dans une église. C'est pour ça qu'il est vraiment mis en prison et qu'il est torturé et qu'il risque la peine de mort jusqu'à ce que le roi le gracie. Il est passé de l'autre côté. Hein. À partir de l'emprisonnement à Meung, il a perdu son statut de clerc. L'évêque d'Orléans lui a rasé le crâne pour qu'on ne voit plus la tonsure. Il a fait raser le crâne. Et là, il n'a plus rien. Il n'a plus aucun espoir et donc il vivote et en même temps il se cache aussi et il écrit.
C'est le temps du testament, ce qu'on a entendu là fait partie du testament. Alors le testament c'est quand même une œuvre extraordinaire, sans fin, où il s'agit, une fois qu'il s'est imaginé des noms et un lignage, de distribuer des biens qu'il n'a pas.
Il reprend le lait. Hein. On a des paragraphes, des strophes, pardon, qui sont proches de celles du lait. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a toute une introduction avec une longue introspection sur ses malheurs à main et la façon dont il a changé. Et puis, il va y insérer tous les poèmes qu'il avait écrits auparavant, les ballades, par exemple, de la ballade de Blois, mais d'autres ballades, dont certaines sont très connues, la ballade des Dames du temps jadis. Et il fait une sorte d'anthologie de son œuvre. Il dit, prétend qu'il se sent mourir, qu'il a été très affaibli par l'emprisonnement à main. Il a quand même une trentaine d'années. Mais pour lui, il est temps de faire un bilan sur son œuvre.
Il a raison, parce que encore une mauvaise affaire, une rixe au cours de laquelle un notaire pontifical est sévèrement blessé. Il assiste, il n'est pas l'auteur. Il est incarcéré au Châtelet, une nouvelle fois soumis à la question, condamné à être pendu. Vous évoquiez tout à l'heure le nom d'un de ses amis, Régnier, compagnon de Ribaud, qui a été celui qui a, avant François Millon, connu, inauguré le gibet de Montfaucon et qui préfigure, dit-il, un peu le destin qui risque d'être celui du poète.
Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri. Et les pièces à dévorer et pourrir, de nous les eaux de fenon, cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en dit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères vous clamons, point n'en devez avoir dédain. Quoique fume Soxy par justice, toutefois vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens facile. Excusez-nous, puisque sommes transis, envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, amène-nous à vie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Notre réalisatrice Valérie Aestaraï savait que c'était la version de Reggiani que vous préfériez pour la balade des bandits.
Alors, finalement, il n'est pas pendu, hein, c'est ça que je dois dire. Encore une fois, il est gracié. Alors, lui qui se prétend dans un poème accablé par la fortune, il aura quand même été gracié 4 fois, ce qui est un record. Et il est gracié, mais cette fois-ci, il est banni de Paris. Et on lui donne 3 jours pour faire ses adieux et son maigre bagage, et il disparaît.
Et oui, la légende s'ouvre. Mais si on revient sur le thème des pendus, vous nous voyez tous attachés, 5 ou 6. Qu'est-ce que c'est que ces pendus, littérairement? Et est-ce que ça a à voir avec les danses macabres?
Oui, c'est avant même la balade des pendus, dans le Testament, il évoque sa mort et il fait un long passage où il décrit la danse macabre du cloître du cimetière des Innocents, auprès duquel il a passé son enfance. Il a dû voir très jeune, vers 4-5 ans, le cloître où il y avait les fosses communes, à ciel ouvert, 500 morts par semaine étaient apportés là. Et il a vu cette danse macabre qui représente donc toutes les catégories sociales entraînées dans la mort par des squelettes. Mais avec les pendus, c'est autre chose au-delà de la mort, puisque le pendu, c'est l'infamie par excellence, puisque la décapitation, le bûcher, évidemment c'est très désagréable, je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais la pendaison, le pendu, et on ne condamnait pas tant que ça de gens à mort à Paris à cette époque-là, mais les pendus, on les laissait des mois, voire des années, se décomposer, c'est ce qu'il décrit d'ailleurs dans la bataille, et il demande pitié, et surtout c'est la famille, toute la famille qui est humiliée, qui perd son honneur avec ses pendus.
Et sa mère vivait encore, fort ancienne et toujours humble chrétienne. Et Guillaume de Villon, son protecteur et formateur, aussi Merci à vous, Sophie Cassagne-Brouquet. Votre livre sur vie et mort de François Villon aux éditions Albin Michel. L'émission a été préparée par Elinka Negulescu avec à la technique Michel Bézikian.